Aujourd'hui, à Rencontre, il est question de Saint-Rémy ou Saint-Remy. On met souvent ce nom sans accent aigu, je remarque ça dans de nombreux documents, et j'ai lu nos nombreuses vies de Saint-Remy depuis quelques jours, et c'est sa fête aujourd'hui. C'était autrefois le 1er octobre, et aujourd'hui c'est déplacé au 15 janvier. C'est celui, Saint-Remy, cet évêque de Reims, qui est mort en 530 après avoir été évêque pendant plus de 70 ans, dit-on, même 74 ans, va jusqu'à 74 ans, puisqu'il a été nommé évêque à 22 ans, puis qu'il est mort à 96 ans. Et donc, cet évêque de Reims, en Champagne, là où se sont fait enterrer de nombreux rois, là où les rois ont été couronnés à travers l'histoire de France, eh bien, cet évêque, Saint-Remy, on calcule que c'est lui qui, en convertissant le roi Clovis, a suscité en somme cette France chrétienne. Et je vous expliquerai l'importance de cet événement, un des plus grands événements en somme de l'histoire de ce pays auquel nous appartenions, d'où nous venons pour la plupart d'entre nous qui sommes d'origine française, n'est-ce pas? C'est un événement extrêmement important et il est bon peut-être de bien connaître ce Saint-Remy qui était vraiment un grand évêque, un homme remarquable. On peut dire que de la famille de Saint-Remy, comme disent les Bollandistes, archevêque de Reims, apôtre des Francs, ce que l'on a écrit ordinairement des familles de Saint-Basile et de Saint-Grégoire de Nazianze, ces familles où il y avait plusieurs saints, que c'était une race de personnes remplies de cet amour de Dieu qui fait les saints. Son père, Émile, était comte de Laon, L-A-O-N. Il a été un seigneur, paraît-il, remarquable. Et sa mère, Céline, oui, je le mentionne parce que c'est un nom très répandu, Céline. Nous avons une Céline importante à Radio Ville-Marie le samedi matin. Céline Boudreau. Eh bien, sa mère, Céline, a été d'une piété éminente, dit-on. Elle a mérité d'ailleurs d'être canonisée, c'est une sainte dans l'Église. Et l'Église l'honore le 21 octobre. Sainte Céline, mère de Saint-Rémy, dont il est question aujourd'hui. Le mariage des parents de Rémy a été béni. Béni comme on le comprenait autrefois. Et j'espère qu'il est compris encore aujourd'hui par certaines personnes. Ils ont eu, dès le commencement, deux garçons. L'aîné est devenu évêque de Soissons. Je vous en parlerai tout à l'heure de Soissons et du fameux vase de Soissons, n'est-ce pas? Au sujet de Clovis. Et puis, le nom du plus jeune, on n'en sait pas le nom. On sait qu'ils ont eu un autre fils nommé Loup. C'est assez curieux, comme Jean-Loup, hein? Saint-Loup, il y a un Saint-Loup, qui est pas un loup, un animal, c'est un nom, et qui a succédé à son oncle dans son évêché, donc un autre évêque. Et les deux sont reconnus comme des saints. Alors, donc, sa mère, puis deux de ses frères sont des saints. Pour Saint-Rémy, on peut dire que ses parents... On sait ça d'après la tradition qu'ils étaient fort âgés. Ils s'attendaient pas d'ailleurs à avoir un autre enfant quand ils ont eu Rémy. Et là, on raconte des légendes, beaucoup de légendes autour de cette naissance. Ce sont des légendes charmantes que l'on racontait autrefois et qui éblouissaient les enfants et les gens à travers les siècles. Mais je crois qu'il faut... oublier ces légendes où apparaissent des ermites qui font des prophéties, etc. On n'a pas de preuves sérieuses à ce sujet. Saint-Rémy, ce qui en fait sa grandeur, c'est qu'il n'a pas seulement établi et édifié un diocèse ou une communauté. Il a été, je vous le répète, le père de la chrétienté française. Il est tellement important dans l'histoire de la France qu'on le compare à Saint-Martin, le grand Saint-Martin, qui est devenu si populaire que c'est un nom de famille archi répandu, qui est le nom de famille de Sainte-Thérèse Martin, Sainte-Thérèse Enfant Jésus. Et combien de Martins il y a ici aussi, hein, comme nom de famille. Il est aussi important, et même plus peut-être que Louis IX, le saint, fameux saint roi Louis, et puis quand on pense à sainte Jeanne d'Arc aussi, et puis ce sont les grands saints nationaux de la France, et donc de la France de nos ancêtres à nous. Ce sont nos saints aussi, si on fait notre histoire passée 1608 ou 1604 même, l'établissement de Port-Royal, ou la découverte du Canada en 1534, et les premiers établissements à la fin de, vers 1595, Lothaire, l'empereur d'Occident, après Saint-Rémy, le nomme le duc de la France. C'est un titre assez curieux, duc de la France. Charlemagne, le fameux Charlemagne, l'appelait l'apôtre des Francs. L'apôtre des Français, quoi. Et à l'exemple de ses chefs, le peuple s'est empressé de placer sous le patronage de Saint-Rémy, vous savez combien de paroisses en France? Plus de 1000. Il y a 1000 clochers qui porte le nom de Saint-Rémy. Saint-Rémy. Il est né, lui, dans le tragique 5e siècle. Pourquoi le tragique 5e siècle? C'est ce que le cardinal Grant raconte à ce sujet. Cardinal Grant était un écrivain, membre de l'Académie française, qui a écrit une vie de Saint-Rémy très brève. Et donc, au 5e siècle, on déferlait sur le pays de nos ancêtres des invasions nombreuses qui se succédaient les unes aux autres, des invasions des gens qui venaient du nord, comme des nuées de sauterelles, des rats de marée, des cyclones. Tout ça, toutes ces images-là, traduisent l'épouvante, la catastrophe des habitants de la France de l'époque. Des catastrophes, la ruine. Ça peut à peine décrire l'horreur des massacres et des destructions puis la désolation générale. C'était, au fond, une espèce de férocité de la violence. Hein. Ça exterminait comme ça, tout sur leur passage, ces gens-là, comme par caprice, sans prétexte, ni excuse de représailles. On s'excusait pas. C'est de là que vient l'expression des barbares, parce que barbare, au début, ça veut dire des étrangers, puis c'est devenu ces gens qui n'ont plus aucun respect de rien. C'était une surenchère de pillage qu'il y avait à cette époque. Des meurtres. Quand ces hordes, comme on dit, dispersaient les autres envahisseurs qui les avaient précédés, c'était l'enracinement de la brutalité puis de la turpitude, sous le règne de l'ignorance puis du fanatisme. Ce sont des mots qui sont peut-être trop forts pour la civilisation dans laquelle on vit. On voit bien tout l'entraide qui règne dans notre pays du Québec actuellement. C'est noble et c'est très beau. Il règne très peu de méfaits et de choses terribles. Tout se fait plutôt dans la générosité chrétienne ou d'origine chrétienne. Quel contraste donc que ces barbares avec les populations qu'on appelait les populations gallo-romaines qui habitaient la France à l'époque, qui étaient plutôt tranquilles, hein. Elles jouissaient de la vie avec simplicité, elles étaient résignées aussi devant ces envahisseurs. Et d'autres barbares restés dans les plaines plus ou moins marécageuses de Batavie, c'est au nord de la Hollande, là, c'est marécageux. Mais ces autres barbares s'apprêtaient eux aussi à fondre. Ils étaient incultes, ils étaient ardents, ils étaient loyaux. Ils étaient accessibles à des sentiments humains et disciplinés. C'était les Francs. Et puis le roi, pardon, Childéric, venait de mourir jeune. Il laissait la couronne à son fils, un adolescent de 15 ans. Car chez eux, le trône était toujours bien près, ou du berceau, ou de la tombe. On devenait roi, on mourait, ou on devenait roi très jeune comme lui, 15 ans. Alors, groupé aussitôt autour de cet héritier Clovis, la cohésion des Francs a raffermi son autorité à ce jeune roi. Il y avait une nature impétueuse, puis volontaire. Puis il entendait d'ailleurs exercer son pouvoir. C'est assez surprenant, mais les jeunes étaient prêts souvent dans leur éducation à succéder à leur père à la moindre occasion quand ils étaient de sang royal. Alors les premiers triomphes, puis l'emprise de Clovis est venue d'une organisation qui était clairvoyante. Mais il avait aussi, s'était marié très jeune, un mariage unique avec une jeune princesse de Genève, qui, elle impose le respect par ses vertus. Elle est catholique. Et tout ici indique une grande force. Ça aide beaucoup Clovis. Alors la ruée ne sera, sur le territoire français, sa ruée en descendant, là, ça ne sera pas de niveler comme font les barbares, et de déplaire aux populations. Les populations n'auront pas à fuir devant Clovis. On les enserre dans les mailles d'une espèce de réseau pour les garder soumis. Ça va les plier aux exigences puis aux mœurs des vainqueurs païens, bien que Clotilde soit catholique. Et la vie, on sauve les vies, on ne tue personne gratuitement. Et contre ce nouveau danger, il n'y a pas d'autre rempart, d'autre digue que Saint-Rémy. L'évêque de Reims, c'est dans le nord de la France un peu, Reims, hein? Et lui aussi, est devenu évêque, non pas à 15 ans, comme Clovis est devenu roi à 15 ans, il est devenu évêque, c'est donc chef de peuple, tout jeune à 22 ans. Saint-Rémy. Son prestige a vite dépassé les limites de la région, puis il y a une foule de légendes poétiques, comme je vous ai insinué tout à l'heure, qui sont nées de sa biographie. Tout ça, ça traînait dans l'histoire jusqu'à tout récemment. Ça peut être charmant, ça peut nous émouvoir, mais il y a des choses qui nous émeuvent vraiment, et c'est la vérité. Ça suffit à la grandeur de Saint-Rémy. Saint-Rémy, de nobles familles, donc d'éducation sérieuse, de haute taille, avec des traits agréables, avec la barbe et les cheveux blonds. Un regard vraisemblablement bleu et limpide. C'était facile pour lui de parler. Et puis on apprenait ses sermons par cœur. Et puis, malgré toute cette popularité-là, il reste humble et pieux. Il sait que c'est Dieu qui lui a donné ses dons. C'est un véritable chrétien. Saint-Rémy. Dieu lui a donné l'esprit de discernement puis d'entreprise. Il lui a donné aussi une ténacité imperturbable qui fait de lui un véritable grand évêque. Et il a la vigueur du chef qui inspire confiance. Et son diocèse, Reims, admire son zèle. Ses fondations, ils font des œuvres de charité. Et bien d'autres choses, sa charité aussi, ça accroît ses mérites, hein. Puis ça ajoute à sa réputation. Et parmi les morcellements là, des forces de son peuple gallo-romain, il devient de plus en plus, lui, par sa juridiction, sur 12 diocèses, une puissance sociale autant que religieuse. Et à la ronde, les autres évêques, la plupart qui sont des disciples, de ses disciples qui l'écoutent beaucoup, le consultent, le choisissent pour modèle, eux qu'on vénère justement. Il y a Vaast d'Arras, Éleuthère à Tournai, Médard à Noyon, et sur la foi de sa renommée puis ses miracles, des personnages qui sont des saints viennent même d'Irlande vers lui. Et lorsqu'il entre dans un concile, dans une grande réunion d'évêques, on rend hommage à sa vertu et toute l'assemblée se lève. Tous les évêques respectent et vénèrent Saint-Rémy. Alors nous allons faire une pause ici pour écouter du chant grégorien interprété par les moines bénédictins de Saint-Pierre de Solesmes.
Et tout
Christus vincit, le Christ gagne, le Christ vainc, n'est-ce pas? Dans le sens de vaincre. Et c'est ce qui va arriver. Ceci, il y a deux forces qui se trouvent en présence au moment où Saint-Rémy vit, puis le jeune Clovis arrive. Et Clovis, lui, il arrive avec toute la spontanéité, puis la vogue militaire, puis une espèce d'orgueil un peu dédaigneux. C'est un jeune roi, pas converti. Sa femme, je vous le répète, est catholique, elle l'impressionne. Hein? Il domine quelque chose qui est bien nocif, c'est la mollesse, la paresse, l'insignifiance. Ce n'est pas un roi insignifiant, même s'il est païen, loin de là. Il a du caractère. Saint-Rémy, qui est actif et pondéré quand même, et prévoyant, il est loin de chercher appui dans ses ressources. Il préfère invoquer l'aide de Dieu. Et si le roi, lui, est gonflé d'ambition puis avide de certains plaisirs païens, il va même jusqu'à assassiner. Si c'est un violent dans un certain sens, l'autre, Saint-Rémy, est oublié de lui-même. Il est réfractaire, lui, à la cupidité et à la bassesse. Et ce qu'il veut, c'est assurer le règne de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ, qui libère les peuples en les convertissant, en les faisant se retourner vers Dieu, leur Père. Et ces deux hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont s'affronter ou bien s'ils vont s'entendre? Et lequel va céder? Lequel va prévaloir sur l'autre? Évidemment qu'aujourd'hui, on connaît l'issue, on le sait. Il est facile d'en décider. Mais alors? Alors pour l'évêque de Reims, Saint-Rémy, précisément en raison de ses vues surnaturelles, puis de ce que ça pourrait avoir comme conséquence, une victoire ou un échec, il sent que sa responsabilité est redoutable. L'histoire peut changer d'orientation. Et de ce problème, Saint-Rémy ne peut évidemment pas éluder la solution. Il faut qu'il amène Clovis au Christ. Il y a de l'anxiété chez ses proches. Il y a des insistances de ceux qui le considèrent comme leur guide. Et lui, il préfère temporiser, y aller lentement. C'est un travail de longue haleine. D'une part, il faut bien y penser, il y a l'autorité romaine qui est maîtresse de la Gaule. Elle, l'autorité de Rome, elle offre des traces, des blessures de dépérissement, d'agonie. Et s'attarder à défendre l'autorité romaine, ce serait plus ou moins périr sous son écroulement. Alors Saint-Rémy, qu'est-ce qu'il va faire? Il voit qu'il y a des hommes considérables comme l'éloquent et habile évêque de Clermont, Sidoine Apollinaire, qui se cramponne à ce passé romain de l'Empire romain, et puis qui accuse d'injustice ceux qui cherchent dans le malheur de cet empire qui sombre. Il trouve que c'est de l'injustice que d'abandonner, de l'abandonner. Est-ce que le monde romain ne représente quand même pas la civilisation, les lettres, les arts? Est-ce que ce serait pas, de la part de Saint-Rémy, très imprudent que de renoncer à cette grande armature familiale et sociale, quand tout menace de s'affaisser puis de sombrer? et de même oublier les services de Constantin, qui s'était converti, l'empereur de Rome, hein? Puis de plus apercevoir le labarum au fait du Capitole, qui est la... Ce serait une marque d'ingratitude. Qu'est-ce que c'est que le labarum? C'est ce grand étendard de Constantin, avec la croix puis le monogramme du Christ, qu'il a créé, on peut dire, en l'an 312, et qui est là au fait du Capitole. Et d'autre part, bien, les Francs, moins barbares, les Francs de Clovis, là, moins barbares que les précédents envahisseurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, viennent cependant de se conduire assez étrangement. Ils ont ravagé la ville de Laon, L-A-O-N, comme vous savez, et Soissons. Leur modération est éphémère. Et le naturel surgit au grand galop, ça leur prend pas de temps. Hein. C'est à ce moment qu'on peut dire que surgissent bien des choses. Est-ce que c'est pas courir une aventure que de leur faire confiance, de les imaginer plus solides que leurs prédécesseurs, les Visigoths, les Burgondes, dont chacun prévoit la chute, là? Et bien qu'on soupçonne dans l'autorité impériale de Rome, là-bas, qu'il y a un ver qui ronge tout cet empire, pourquoi ne pas réunir dans une espèce de carré suprême les forces qui ont assuré le calme et maintenu l'équilibre, donc les forces de Rome? Et les impatients devraient se souvenir des pleurs de Saint-Augustin sur sa ville assiégée par les Vandales. C'est très beau dans la vie de Saint-Augustin, ça, quand il pleure devant les ruines de basiliques et d'hôpitaux qui sont amoncelées sous les coups des Vandales. Et ces considérations étaient importantes, mais très humaines. Or, devant Dieu, elles n'ont pas de poids. Saint Paul, esquive Saint Paul, proclamait pas les droits des gentils, des étrangers, des gens qui sont pas des juifs au salut. Puis les apôtres protestaient aussi contre la prétention de réserver aux juifs l'évangile puis le baptême. Alors, Saint Rémy se dit qu'il n'y a pas d'aristocratie des peuples dans la rédemption. Rome n'est pas au-dessus des Francs de Clovis. Alors, il faut pas bannir, il faut pas interdire. Parce que il se dit, Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, il les appelle tous à la vérité, à la grâce et à la gloire. Et d'ailleurs, le jeune Clovis pourrait bien réaliser l'unité chrétienne, puisqu'il s'annonce comme le lieu de l'unité nationale. Alors, l'enjeu justifie l'essai. Alors, la plus grande merveille de Saint-Rémy a été sans doute la conversion de Clovis puis des Francs. Elle est rapportée tout au long dans l'histoire de ce grand prince. Mais c'est nécessaire d'en donner ici un petit abrégé. Clovis était donc le cinquième roi de cette nation bien belliqueuse, qui, après avoir passé, ou forcé même le passage du Rhin, là, le fleuve, il s'était emparé de la meilleure partie des Pays-Bas, de la Hollande, dont je vous ai dit, il venait du nord de la Hollande. Il s'était emparé de la Picardie, puis de l'île de France. Il poussait toujours ses conquêtes sur les Gaules, auparavant occupés par les Romains. Puis, comme je vous ai dit, il est parvenu à la couronne en 481. Il avait 14-15 ans, quoi. Mais tout jeune qu'il était, il n'a pas cessé de suivre les traces de ses prédécesseurs et de se mettre d'abord à la tête de ses armées pour se rendre le maître des provinces voisines, hein, afin d'en former un grand royaume. Il a livré bataille à des gens comme Syagrius, qui défendait les débris de l'Empire romain dans les Gaules. Il l'a défait, il l'a tué. Et par ce moment, par ce moyen même, il trouvait plus rien qui résistait à la force de ses armes. Il a assujetti une grande partie des Gaules à son empire. Il était encore païen. Mais cependant, il persécutait pas les chrétiens. Il y avait même du respect pour les évêques. Oui, du respect pour les évêques et pour les prêtres des villes qu'il prenait et qui se soumettaient à sa domination. Et Saint-Rémy a été celui dont il a le plus honoré la vertu. Il a senti que c'était un saint chrétien, lui qui ne connaissait pas vraiment le christianisme. En effet, un jour, ses soldats, passant près de Reims, ont pillé une église. Ils ont emporté les ornements puis les vases sacrés. Et à la seule prière que le Saint-Rémy lui envoyer de lui rendre, de tout le butin, au moins un vase d'argent que son poids puis sa ciselure, le vase de soissons, hein, rendaient fort précieux. Mais il est venu à l'endroit où l'on partageait les dépouilles, bien demandé par grâce à son armée que ce vase lui soit donné par préférence, sans le tirer au sort parmi les soldats. Et la plupart des soldats y ont consenti, mais un seul, plus malin que les autres, a déchargé une espèce de coup de hache sur le vase de soissons en disant insolemment que le roi n'aurait comme les autres que ce qui lui revenait au sort. Et chacun était surpris de cette impudence. Et le roi, Clovis, l'a dissimulé pour un temps. Et puis, il n'a pas cessé de prendre le vase quand même, puis de le rendre à celui que Saint-Rémy lui avait envoyé, l'envoyé de Saint-Rémy. Mais au bout d'une année, Clovis faisait la revue de ses troupes. Il a vu leurs armes qui étaient en bon ordre, puis a reconnu le soldat téméraire là, qui lui avait fait cet affront de donner un coup de hache sur le vase de métal. Il lui a jeté une de ses armes à terre sous prétexte qu'elle n'était pas luisante comme celle des autres. Puis pendant que le soldat se baissait pour la ramasser, Clovis, qui va se convertir, mais qui n'est pas converti, lui décharge un coup de hache sur la tête et le tue de sa main en lui disant « Tu as frappé ici le vase de soissons ». C'est la fameuse histoire du vase de soissons qu'on raconte et raconte. Souvent, on ne sait pas ce que c'est. On fait des allusions au vase de soissons, on ignore ce que c'est. Faisons une pause pour entendre un peu de Grégorien chanté par les moines de Solesme. Aujourd'hui, il est question de Saint-Rémy qui a transformé l'histoire de la France d'où nous venons pour la plupart, nous ici du Québec. C'est le pays de nos origines, et moi qui porte le nom d'ailleurs de la province de Champagne, Reims c'est la capitale de la Champagne, et Saint-Rémy était l'évêque de Reims. Il a régné, il était évêque, je vous le dis, jusqu'à l'âge de 96 ans. Il avait été nommé évêque à 22 ans. Faites le calcul. 74 ans évêque. Revenons au jeune Clovis, qui pourrait peut-être réaliser, croit-on, l'unité chrétienne. Hein? L'unité nationale. Alors, il y a des solutions audacieuses qui n'effraient pas l'Église. La plupart du temps, elle ne s'est pas inféodée à un parti. Il y a eu des membres de l'Église et des dignitaires de l'Église se sont inféodés à des partis, se sont inféodés à des pouvoirs, c'est vrai. Mais l'Église elle-même a toujours su, il me semble, quand on lit l'histoire attentivement, se réveiller, et regarder comme elle le fait au Chiapas, avec Mgr Ruiz, à cet évêque en Indonésie qui a eu le prix Nobel parce qu'il s'oppose aux persécutions que les Indonésiens musulmans font aux catholiques là-bas. Et ainsi partout, ce sont souvent les évêques, des évêques, une église, l'église, qui réagit. Elle est capable de négocier avec tous les régimes politiques. Elle garde envers chacun son indépendance dans la plus grande mesure du possible. Elle a souvent été chassée, persécutée. Son histoire le prouve presque toujours. Je ne veux pas dire que c'est parfait, mais c'est un des plus grands remparts, sinon le plus grand rempart, à mon avis, c'est le plus grand rempart contre les abus. Après avoir réfléchi et prié, Saint-Rémy se décide. Il a l'intuition puis la volonté nécessaire pour tenter l'œuvre de la conversion de Clovis par des voies nouvelles. Pourquoi répéter à l'égard des Francs les gestes trop brusques de l'évêque Saint-Aignan à Orléans et de Saint-Loup à Troyes, qui, eux, ont saisi, on peut dire, par la bride, les chevaux des envahisseurs, puis les ont détournés dans leur élan de carnage. Son expérience et sa sainteté vont chasser les ténèbres autrement. Il envoie une lettre aimable, il félicite donc Clovis de son accession au trône, et on devine la fierté de ce jeune homme, de ce jeune roi, à voir son autorité reconnue par celui qui représente une si grande force morale et qui possède un tel prestige. Saint-Rémy, c'est pas n'importe qui. Hein. Mais, sous les charmes des compliments, Saint-Rémy, dans sa lettre, lui indique une condition de ce ralliement sensationnel. Il lui conseille à Clovis de recourir au service des évêques. Puis il le prémunit contre sa jeunesse. Puis il l'exhorte à consulter des gens âgés. Puis à se montrer un homme supérieur, malgré sa jeunesse. Et donc, les approches sont faites. À la correspondance entre Saint-Rémy et Clovis vont succéder des visites, une fréquentation, sinon même une direction, une sorte de direction spirituelle. Alors, comme on peut voir, la puissance religieuse de service, car les évêques sont au service, les vrais, les saints. Alors la puissance religieuse, cette puissance de service est prête à christianiser le pouvoir civil. Mais le pouvoir civil du roi, va-t-il l'admettre et passer de la bienveillance envers les hommes, envers les évêques, à l'acceptation de la doctrine, à l'acceptation des dogmes, à l'acceptation de l'évangile, à l'acceptation d'une démarche de sainteté, quoi? Clovis, jeune, rencontre des obstacles, il y a des objections. Des objections de son entourage, de son peuple armé. Ils ont de l'atavisme. Ce ne sont pas des anges. Puis il y a des objections personnelles. Mais il ne faut pas regretter que Clovis soit obligé de triompher de certaines difficultés. Hein? Dieu voit plus loin que nos petites prévisions mesquines. Hein? Ce que nous imaginons être une espèce de désordre chez Clovis, eh bien, grâce au recul des siècles, nous nous apercevons que c'est un bienfait. Si Clovis était décidé d'un seul coup à devenir chrétien, comme par un charme, ben, le monde aurait prétendu qu'il s'était converti parce qu'il était intéressé. Il était intéressé peut-être, mais on peut dire que si dans le cas d'une autre conversion qui a lieu plus tard d'un roi protestant au catholicisme qui a dit « Paris vaut bien une messe », ça vaut bien la peine d'assister à une messe et de me dire catholique « Je posséderai Paris, Paris vaut une messe », on a peut-être suspecté un petit peu sa bonne foi, Clovis, mais tous les retards puis l'examen attentif des arguments vont garantir, me semble, une résolution sérieuse de sa part. Et d'abord, l'orgueil de ce roi et de son peuple, il s'effarouche un peu quand il pense que le christianisme, c'est pas drôle drôle le christianisme, c'est jusqu'à présent la religion des vaincus. C'est les païens qui gagnent partout, qui descendent sur les chrétiens, qui les accablent. Comment amener donc ces soldats, surtout les bataillons de sa garde, qui sont ivres de force, qui sont sensuels, à un culte de la bonté chrétienne, de l'humilité chrétienne, du sacrifice chrétien? Quand il les entend chanter à leurs nombreux dieux des hymnes de guerre, un peu comme l'hymne national de la France, malheureusement, qu'un sang vaincu abreuve nos sillons, hein, quelle parole épouvantable. Et en brandissant leurs armes, les soldats de Clovis brandissent leurs armes, qu'on appelle la Framée, puis la Francisque. Puis ça fait des cliquetis sur les boucliers, ça surexcite leur ardeur. Clovis à peine a espéré qu'ils vont s'agenouiller devant un dieu qui a voulu, ici-bas, non pas resplendir dans l'opulence puis le triomphe, mais c'est un dieu qui a voulu naître pauvre, qui a voulu vivre mercenaire puis mourir sur une croix. Or, il lui est impossible de devenir chrétien sans eux, il faut qu'ils l'accompagnent. Leur abandon renverserait son trône, hein, c'est évident.
Alors voilà où en est Clovis, quand il pense à devenir catholique. Et en outre, il y a les objections personnelles qui l'assaillent. Et sans doute les conseils discrets de Saint-Rémy, ça a ébranlé l'opposition de Clovis. Puis il y a aussi toujours les vertus de sa femme, Clotilde, qui l'édifie. Et pour aucune raison politique ou sentimentale, tout ça ne hâte sa conversion. Il y a des épreuves dans son foyer, c'est ça qui l'empêche un peu de se convertir. Ça peut compromettre sa conversion à jamais. Qu'est-ce qui est arrivé? Faut pas oublier que, par égard pour sa femme, il a permis que leurs premiers enfants soient baptisés. Or, qu'est-ce qui est arrivé à ses enfants? L'un d'eux meurt presque aussitôt, puis le second, malade, est sur le point de le suivre. Alors, cette répétition d'événements pénibles à la suite des baptêmes, ça alarme le roi Clovis. Hein? Engagé donc avec toutes ses troupes contre les Alamans, Clovis s'aperçoit, en faisant la guerre, que ses troupes succombent. Il comprend que leur déroute va anéantir son pouvoir, son propre pouvoir. Mais dans son angoisse, il crie cette prière qu'on peut faire nôtre. Dieu de Clotilde, donne-moi la victoire. Je croirai en toi. Quand on est terrassé dans nos péchés, dans nos fatigues, dans nos épreuves, dans nos difficultés, Dieu de Clotilde, enfin, Dieu de mes pères, Dieu de mes ancêtres, Dieu de mes parents, donne-moi la victoire, je croirai en toi. Et soudain, la défaite change de camp. Ses troupes emportent à Tolbiac une grande victoire, une très grande victoire. Et dans le bréviaire aujourd'hui, dans la lecture, du 15 janvier, il dit que Saint-Rémy évêque, t'es évêque de Reims, il est mort en 530, et que son nom est attaché au baptême de Clovis et à l'entrée des Francs dans l'Église catholique. Et on écrit d'un extrait de l'histoire des Francs par Grégoire de Tours. L'évêque de Reims, Saint-Rémy, fut appelé par Saint-Clotilde auprès du roi Clovis, qui venait de se convertir. L'évêque commence à lui faire comprendre qu'il devait croire au vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, et abandonner les idoles. Si les Québécois qui ont quitté l'Église abandonnaient leurs idoles, voyage dans le sud, dépenses inutiles, loisirs intempestifs, nourriture excessive, absence de prière, retour au sacrement. Mon Dieu, confessez ses péchés, communiez. Si on abandonnait nos idoles, les idoles qui ne peuvent être utiles, dit le bréviaire, ni à elles-mêmes, ni aux autres. Mais le roi lui dit, Clovis lui dit, je t'écouterai volontiers, Père Tressé, mais il reste une chose, c'est que le peuple qui me suit, n'accepte pas de renoncer à ses dieux, mais j'y vais, et je leur dirai ce que tu m'as dit. Il alla trouver les siens, mais la puissance de Dieu avait devancé son discours, et tout le peuple s'écria en même temps, « Nous rejetons les dieux mortels au pieux roi, et nous sommes prêts à suivre le Dieu immortel que prêche Rémy. » Alors on porte cette nouvelle à l'évêque, qui, rempli d'une grande joie, ordonne de préparer le baptême. Alors les galeries de l'église sont couvertes de peintures, décorées de courtines blanches. La piscine est aménagée, parce qu'on faisait des baptêmes dans les piscines, hein, comme certaines églises protestantes le pratiquent encore aujourd'hui. La piscine est aménagée, on répand des parfums, on fait brûler des cierges et de l'encens. Toute la chapelle du baptistère est embaumée d'une odeur céleste, et Dieu accorde aux assistants une telle grâce qu'ils se croient transportés dans les parfums du paradis, dit le bréviaire d'aujourd'hui dans cet texte de Saint Grégoire de Tours. Et on ajoute, ce fut le roi qui le premier demanda à être baptisé par le pontife, par Saint Rémy. Ce nouveau Constantin, l'empereur de Rome qui s'était converti, je vous le rappelle, ce nouveau Constantin s'avance vers le baptême pour guérir de la lèpre originelle, pour guérir du péché, quoi. Et pour effacer par une eau nouvelle les souillures de son passé. Lorsqu'il fut entré dans l'eau pour recevoir le baptême, le Saint de Dieu lui adresse une, cette interpellation éloquente, c'est-à-dire c'est Saint-Rémy qui lui parle, hein, incline humblement la tête, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. Saint-Rémy était un évêque d'une science remarquable, dit Grégoire de Tours, qui avait étudié profondément la rhétorique. Donc il était instruit, on pourrait dire aujourd'hui qu'il avait fait son cours classique. Mais il était aussi éminent en sainteté, au point qu'il égalait Saint-Sylvestre par ses miracles. Saint-Sylvestre, c'est le pape. Il existe de nos jours un livre de sa vie qui raconte qu'il a ressuscité un mort, dit Saint-Grégoire de Tours. Donc, ajoute-t-il, le roi, ayant confessé la Trinité du Dieu Tout-Puissant, fut baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis il reçut l'onction de Saint-Crème avec la marque de la croix du Christ. Plus de 3000 hommes de son armée furent aussi baptisés, en baptisant encore sa sœur Albofled, qui, peu de temps après, immigra auprès du Seigneur. Elle est morte peu de temps après. Comme le roi en était attristé, Saint-Rémy lui envoya une lettre de consolation qui commençait ainsi. « Vous avez perdu récemment quelqu'un que vous aimiez, qui est mort ? » Écoutez cette lettre de Saint-Rémy. « J'ai moi-même le cœur serré et profondément par ce qui cause ta tristesse. Le trépas de ta sœur Albofled de vertueuse mémoire. Mais nous pouvons nous en consoler, car elle a quitté ce monde dans de telles dispositions que l'on doit la vénérer plutôt que la pleurer. » Alors c'est comme ça que s'est fait baptiser, n'est-ce pas? Rémy a paru inaccessible à l'amour propre. Il ne s'est pas enorgueilli de son attitude. Lui, c'est Rémy, il ne voit que l'hommage qui est rendu à Dieu. Quand celui que Bossuet appelle un nouveau Constantin, Clovis s'avance donc le jour de Noël 496 vers la cathédrale de Reims, afin d'y recevoir le baptême des mains de Saint-Rémy. Il y a tout ce cortège magnifique. Et cet incident se transforme donc en événement national et séculaire. Est-il inouï, d'ailleurs, que des faits minuscules prennent une envergure immense et penser que la naissance du Christ qu'on vient de fêter, c'est rien du tout. Il naît pauvre. Et pourtant, un petit événement anodin devient un événement si immense que nous calculons nos années d'après le jour de cette naissance. Et nous allons célébrer l'an 2000, c'est 2000 ans après la naissance de Jésus-Christ. Alors ce petit événement, vous direz le baptême de Clovis, c'est devenu un grand, grand, grand événement. Faisons une pause pour écouter encore les moines de Solesmes qui nous chantent un hymne grégorien.
Oh,
sur cette réflexion au sujet des événements qui semblent peut-être pas si importants et qui changent l'histoire du monde. Je vous ai dit la naissance du Christ pauvre. Pensez, on n'y pense pas toujours assez, je trouve. Petit enfant inconnu, misérable. Jésus pleure au fond d'une grotte de village, dans une province perdue de cet immense empire romain. Qu'est-ce qu'il inspire? Un peu de compassion. Les bergers viennent, ils compatissent. Qu'est-ce qu'on peut lui prédire? Rien du tout, une vie obscure. Or, ce petit pauvre, Jésus, c'est pour lui que durant 3 siècles, des millions de martyrs vont verser leur sang. C'est pour lui qu'on va pratiquer l'indigence, la pauvreté et la chasteté volontaire. Toutes les délicatesses de la charité et les rigueurs de la pénitence. C'est lui qui va susciter des amours chrétiennes profondes, qui va permettre aux chrétiens de fonder des foyers solides, où des enfants naîtront à l'éternité. C'est lui qui va susciter les plus grandes controverses qui diviseront peut-être les peuples et qui passionneront les hommes qui sépareront l'histoire en 2 cycles. Comme je vous ai dit, l'un qui précède sa venue, l'autre qui le suit, 2000 ans, bientôt, de sa naissance, depuis sa naissance. C'est en son honneur que nos ancêtres ont construit les cathédrales de France et les belles églises du Québec, car c'est sa divinité que l'on y vient adorer et prier après 20 siècles. Sa divinité dont je vous ai parlé hier en vous parlant de Dorothée Quoniam, cette carmélite du siècle dernier, qui avant de mourir à 34 ans, au Carmel de Paris, a défendu la divinité du Christ dans un immense ouvrage en 2 volumes, paru chez Tecky. Alors les conséquences du baptême de Clovis vont permettre d'exalter Saint-Rémy, dont c'est la fête aujourd'hui, pour avoir pris place parmi ces personnages extraordinaires qui providentiellement, à 1h30, égayent l'histoire, quoi. Celle-ci nous en propose bien des preuves. Si on s'en tient à l'ère chrétienne, pensons que Constantin, par exemple, ait refusé la liberté à l'Église. Pensons que Charles Martel n'aurait pas arrêté les musulmans à Poitiers, que les musulmans auraient conquis toute l'Europe comme ils ont conquis toute une partie du monde en l'espace de quelques années à cheval avec des sabres. Pensons à Saint Pie V, avec Don Juan d'Autriche, qui ont arrêté les Turcs à Lépante. Pensons à Grégoire VII, s'il n'avait pas brisé l'orgueil de l'empereur d'Allemagne. Pensons à Jeanne d'Arc, qui a arrêté les Anglais à Orléans. Notre sort, par le sort de nos ancêtres, était changé. Comme ont été les destinées religieuses de l'Angleterre quand Henri VIII a surgi, eh bien, l'Angleterre est passée au protestantisme à l'intérieur d'un anglicanisme qui se fait de plus en plus protestant. Et ça a suscité le méthodisme, le presbytérianisme. Et quantité d'autres religions ou églises divisées. Pensons à l'Allemagne avec Luther, qui, en dépit de ses bonnes intentions, a brisé l'Église. C'était un réformateur clairvoyant, mais qui s'est laissé emporter par des intérêts politiques. Qu'est-ce que ça aurait été l'avenir de la France et du Québec avec un Henri IV protestant? Ça aurait tout changé. L'unité de l'Église aurait été brisée davantage. C'est pas facile préserver cette unité de l'Église. Mais c'est comme ça. C'est souffrant souvent pour nous. Mais nous l'aimons quand même, cette Église. Et ainsi l'action décisive de certaines grandes personnalités sur la vie du peuple est indéniable. En préparant le baptême de Clovis, puis de ses francs, de ses soldats, Saint-Rémy a fait un geste dont la postérité constate les effets et dont l'Église, me semble, doit être reconnaissante. On attribue à Saint-Rémy la gloire de ce baptême. C'est Bossuet qui disait « Ce grand saint, ce nouveau Samuel, ne s'est pas borné à verser l'eau baptismale, mais en la personne de Clovis, Bossuet dit, il sacra les rois, comme il le dit lui-même, pour être les perpétuels défenseurs de l'Église et des pauvres, et pour dilater le règne de Jésus-Christ. » Le rôle de Saint-Rémy semble terminé et il pouvait mourir. Mais Saint-Rémy obtient de consolider son œuvre par ses conseils, ses prières et ses souffrances jusqu'à 96 ans. C'est probablement le plus long épiscopat de toute l'histoire de l'Église, 74 ans, sous le règne d'une dizaine de papes. Mais les maladies, la cécité, les épreuves morales, causées par toutes sortes de critiques dont on accable ordinairement les évêques très âgés et ceux qui sont très très vieux, ça a été pour lui l'occasion de souffrir, mais d'édifier quand même les fidèles et les prêtres par sa sérénité profonde. Dans l'inquiétude, puis les lueurs sanglantes d'une fin orageuse et parmi le fracas de toutes sortes de meurtres familiaux qu'il y avait à la cour, sa vie s'est éteinte calme, même auréolée d'une grande paix. Il va partir détaché de tout. 96 ans. C'est peut-être ça la vieillesse, ça nous détache. Il avait constitué la véritable église de Reims, comme il dit sa sainte héritière. Quand le dernier de ses innombrables miracles lui a rendu soudain la vue, lui a permis de célébrer la messe, et à ses ennemis qui osent interpréter son aveuglement comme une punition de sa confiance erronée en Clovis et en sa race des Francs, c'est la réponse de Dieu. Il recouvre la vue. Et la piété populaire a commencé aussitôt, suivie de témoignages plus qualifiés. 10 ans après sa mort, l'évêque de Trèves, Saint Nicète, essaie de convertir une princesse arienne. Alors, l'évêque affirme que les miracles de Saint-Rémy ont transformé cette princesse, l'ont convertie. À Reims, c'était une ville très belle, ça a attiré bien des pillards. Il y a eu des successeurs remarquables à Saint-Rémy. On a construit une châsse magnifique, mais cette châsse a été transportée à maintes fois pour la sauver de toutes sortes d'épreuves. Mais c'est au temps de la Révolution française qu'il y a une ruée de la populace qui a déferlé dans la basilique de Reims, dans la cathédrale. On a démoli la châsse. Mais quand le corps est apparu, des ricanements ont éclaté, puis de main en main, on se jetait le crâne de Saint-Rémy. Mais un dénommé Carangeau s'est écrié, « Et là, Rémy était un homme, il a le droit d'être enterré comme tous les hommes. » Et c'est comme ça qu'on a encore les reliques de Saint-Rémy. Les reliques sont quand même des choses importantes quand on y pense, car au tout début de l'Église, c'est en 155, quand on a recueilli les ossements de l'évêque Saint-Polycarpe, bien les chrétiens de Smyrne disaient, qu'il était plus précieux que des pierreries, et nous nous réunissons auprès de ces reliques de Saint Polycarpe pour la prière. Des reliques, ça nous rappelle que le corps de ce saint a été le tabernacle de la Trinité et a servi à sa sainteté.